Eh bien, c'est un peu par un hasard que nous sommes aujourd'hui le 8 avril 2021, et je viens d'apprendre effectivement que ça fait 150 ans que mon arrière-grand-père Jean-Baptiste Guimet est décédé. Et donc, c'est une très bonne occasion de parler de cet ancêtre. Il faut dire qu'il est né en 1795 à Voiron, et que tout jeune, il courait les rues, et son père, qui était ingénieur et qui travaillait à Marseille, il a largement contribué au plan des ports de la Joliette à Marseille, eh bien, se plaignait qu'il était très, très fort en mathématiques, mais qu'il n'en faisait pas suffisamment. Et son père s'est marié avec Anne Mallet, qui est décédée très rapidement lorsque lui-même, Jean-Baptiste, n'avait que 3 ans. Et c'est donc cette tante, Véronique, qui s'est occupée de son éducation. Et quand il avait 9-10 ans, son père a souhaité qu'il fasse des études plus poussées. Et il l'envoie à ce moment-là à Paris, dans un centre d'éducation qui s'appelle le collège X, HIX. Et il fait des études classiques, et puis petit à petit, il va évoluer et il va au collège Napoléon. Napoléon, c'est actuellement le lycée Henri IV. C'est un lycée qui était à l'époque extrêmement bien coté, et il fait des études assez rapides et relativement brillantes, qui l'emmène ensuite à Polytechnique. Et là, je vais demander à peut-être Cécile de nous parler en fait de sa suite.
Alors, à l'école polytechnique, Jean-Baptiste Guimet suit des études. Il se spécialise en mathématiques et il se spécialise aussi en chimie. Il est de la promotion 1813 et dans cette promotion, il y a également Prosper Enfantin, Auguste Comte. Donc, il baigne dans un environnement moderne, centré sur la raison, sur la science et sur la nécessité aussi d'utiliser les résultats de la science pour moderniser le pays. Nous sommes sous le Premier Empire et en 1814, lorsque les troupes alliées occupent Paris, il prend part à la défense de la capitale en tant que canonnier. Après ses études à l'école polytechnique, il entre dans l'administration des poudres et salpêtres, qui est rattachée au ministère de la guerre. Sa carrière est faite de mutations successives, et avant d'arriver à Toulouse, où il s'y installe dans les années 1825-1826, il a fait la connaissance en région parisienne de Rosalie Bideau, une artiste peintre issue du Midi. Donc, dans les années 1820, il fait la connaissance du milieu des peintres parisiens et il est sensibilisé par celle qui deviendra son épouse en 1824 sur les problèmes qui sont ceux des artistes de l'époque pour se procurer des couleurs à bon marché. Parmi ces couleurs à bon marché, il y a la nécessité de se procurer du bleu outre-mer. L'outre-mer est un produit de luxe, le bleu outre-mer. Il est extrait du lapis lazuli, qui est une pierre précieuse venant d'Asie centrale. Son prix de vente est autour de 10 000 francs le kilogramme. Jean-Baptiste Guimet est donc sensibilisé par son épouse sur les problèmes qui sont ceux des peintres de l'époque de se procurer ce bleu outre-mer bon marché. Lorsqu'il est à Toulouse, Jean-Baptiste Guimet, dans son administration, met au point des fourneaux économes en charbon. Le salpêtre est séché à partir d'une opération qui consiste à insérer les matières premières dans un fourneau. Et il met au point des projets d'amélioration de ces fourneaux-là à Toulouse, notamment des économies très importantes en charbon. Parallèlement à sa carrière dans l'administration des poudres et salpêtres, il a un intérêt qui est porté vers l'industrie et vers la recherche. Il met au point la poudre rousse, c'est-à-dire une poudre qui était jusque-là fabriquée par les Anglais, et il en produit et il met cette invention au service de son administration, espérant ainsi une évolution de carrière. Une évolution de carrière qui ne va pas se faire dans la mesure où il entretient des rapports parfois conflictuels avec sa hiérarchie, car c'est un fonctionnaire qui est très porté sur l'innovation, sur la recherche, et qui pense que par son mérite, par ses créations, par ses inventions, il pourra progresser rapidement dans son administration. L'administration bloque son évolution de carrière et c'est vers l'entreprise privée qu'il va progressivement s'orienter pour donner ainsi libre cours à ses inventions. La poudre rousse d'abord, mais aussi une fabrique de blancs de céruse qu'il ouvre en région parisienne alors que lui-même occupe des fonctions de commissaire aux poudres à Toulouse. Donc il ouvre une fabrique de céruse en région parisienne, mais du fait de l'éloignement, cette aventure s'achève lorsque, en 1828, il est nommé commissaire aux poudres à Lyon. Il se trouve qu'avant sa nomination, en 1828, au poste de commissaire aux poudres à Lyon, il a mis au point, le 10 août 1826, le premier outremer de synthèse. C'est-à-dire qu'il a reconstitué les propriétés de l'outremer naturel, qui était extrait du lapis lazuli, pour mettre au point un outremer qui est ici, hein, dont vous voyez
Oui,
ici.
Cécile, je crois que ce qu'il faut quand même bien dire aussi, c'est qu'en fait, de cette outremer naturelle, qui était obtenue avec le broyage de la pierre de lapis lazuli qui est ici, il était recherché en fait un outremer qui soit beaucoup moins cher que la poudre du pigment de lapis lazuli. Parce que c'était horriblement cher, ça se vendait le prix de l'or à l'époque. Et il y a eu un concours, des concours qui ont été faits, soit par des sociétés d'encouragement anglaises, puis ensuite la société d'encouragement française, et un concours à celui, en fait, qui découvrirait la façon de produire d'une façon, au fond, artificielle ce bleu d'outre-mer qui avait l'éclat de cette pierre de lapis-lazuli. Et qui donnait la pérennité aussi à cette peinture-là. Et c'est pour cela qu'il a fait ce concours, et justement, grâce à la demande, en quelque sorte, de sa femme peintre elle-même, dont la famille était originaire de Carpentras, et donc elle-même était lyonnaise quand même, et donc qu'il a, à ce moment-là, fait ses recherches parce que, en fait, il était tellement amoureux de sa femme que véritablement il a cherché à diminuer en fait les coûts de sa peinture, et c'est pour cela qu'il a été très enclin à concourir à ce prix. Et c'est à ce moment-là que tu disais très justement qu'il a gagné ce prix.
Jean-Baptiste Guimet remporte en 1828 un prix qui a été décerné par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, un prix de 6 000 francs pour qui mettrait au point un outremer de synthèse. L'outremer de synthèse a été mis au point le 10 août 1826. Jean-Baptiste Guimet en informe son épouse, hein, qu'il a pu reconstituer les propriétés de l'outremer naturel, qui était un produit de luxe extrêmement onéreux. Jean-Baptiste Guimet en produit un qui coûte 30 fois moins cher que l'outremer naturel. Il remporte un prix de 6 000 francs, ce qui va lui permettre d'avoir un petit capital de départ pour lancer une entreprise qui ouvrira ses portes à partir de 1831. Simultanément, Jean-Baptiste Guimet poursuit sa carrière dans l'administration des poudres. Il est commissaire aux poudres Lyon de 1828 à 1834.
Donc, entre 1828 et 1834, il poursuit sa carrière dans l'administration des poudres à Lyon et il crée une entreprise en 1831, ici, à Fleury-sur-Saône, au nord de Lyon. Il doute de la viabilité de son projet, mais il commence à voir que son produit, l'outremer de synthèse, suscite un immense intérêt chez les peintres. Son épouse qui l'utilise, mais aussi des artistes de l'époque, notamment Horace Vernet, qui va l'utiliser pour sa toile L'Apothéose d'Homère. Une autre toile aussi qui porte la marque de l'outremer, guillemets, c'est la bataille de Fontenoy. Donc un usage qui se fait chez les peintres parisiens, et puis Jean-Baptiste Guimet se rend compte qu'en modifiant quelques-unes des propriétés de son outremer artificiel, il peut produire un bleu pour d'autres clientèles. La clientèle des papetiers, la clientèle des fabricants d'encre, et puis la clientèle textile qui utilisera le bleu guillemets pour azurer les fibres, fibres de laine ou fibres de soie. Donc à partir de 1831, il lance son entreprise ici au nord de Lyon, à Fleury-sur-Saône, où nous sommes, et il se rend compte que cette entreprise devient de plus en plus florissante. Il s'associe avec son beau-frère, Louis Bidault, polytechnicien comme lui. Il est de la promotion Louis Bidault 1826, et ensemble, ils vont développer l'entreprise, acheter des parcelles de terrain autour de la Saône, et agrandir considérablement l'usine qu'ils ont créée. Cette usine voit sa production augmenter très fortement et place ainsi l'entreprise guillemets en 1850 comme le leader sur le marché français de l'outre-mer. Elle détient une position de monopole sur ce produit entre 1831 et 1871, année du décès de Jean-Baptiste Guimet, le fondateur de l'entreprise.
24, c'est le mariage à Paris.
Et en 26, il est à Toulouse.
Et en 26, il part à Toulouse.
Mais entre-temps,
sans sa
il a
femme.
eu, sans sa femme, son épouse. Entre-temps, il a eu beaucoup de mutations.
Et
Sans...
entre-temps, quand il sort de Polytechnique, il a
Oui.
beaucoup de mutations,
Oui.
dont une au Pas-de-Calais, dans le
Oui.
Pas-de-Calais, où il découvre la poudre rousse qui se fait
Oui,
voler.
c'est ça.
Et puis ensuite, il revient à Paris.
Oui.
Et là, à Saint-Denis, il monte une entreprise qui est l'entreprise de la poudre rousse.
Oui,
Non, non,
de Blanc-Sérus.
de l'entreprise du
La
blanc de
poudre rousse.
Sérus avec un copain.
Exactement, parce que la poudre rousse, il
Et
a.
il part
Oui.
après et il s'aperçoit, en fait, et cette entreprise de Blanc de Sérus dépose le bilan au bout de
Oui.
4 à 5 ans et il
Oui.
se dit, il faut absolument que je reste présent au contact
Physiquement,
de
c'est
mon
ça.
entreprise physiquement.
Exactement.
Et c'est donc dans une certaine logique qu'il veut vérifier. Et de ces deux échecs-là, on
Oui.
va dire,
Oui.
il va tirer des conséquences qui
Oui.
vont faire qu'il va réussir son projet industriel de création de la fabrication du bleu, guillemets.
Exactement,
Voilà.
qui correspond à sa troisième tentative. La
Voilà.
première tentative, la poudre rousse, il était, disons, pas naïf, mais il a mis cette invention au service de son administration,
Voilà.
pensant qu'il aurait une évolution de carrière.
Voilà.
Or, cette invention a été captée par sa hiérarchie qui ne l'a pas fait évoluer
Et qui
comme
se l'est
il aurait
pris pour lui.
espéré. Voilà, l'administration. C'est un haut fonctionnaire qui a capté l'administration pour son propre bénéfice. Le Blanc de Céruse, oui, comme tu l'as dit, l'éloignement géographique du fait qu'il se retrouve à Toulouse et que ses
Voilà.
copains étaient à Paris. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas. Moi, j'ai pas retrouvé dans les archives. La fin de l'histoire, en fait. Je sais que ça a fermé, mais j'ai pas vu un dépôt de bilan, ni une brouille peut-être avec des amis de l'époque. Ça disparaît un petit peu. Et après, il y a le moment où il est nommé à Lyon, commissaire aux poudres. Et là, ce moment dont tu parles, qui est fondamental, 1831, où,
Oui.
ayant la responsabilité des poudres qui servaient pour armer les canons, il déverse le contenu de celle-ci dans la Saône et dans le Rhône pour éviter qu'elle ne tombe aux mains des insurgés, mais qu'elle
Voilà.
ne serve aussi à la répression.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il adopte par rapport au contexte de l'époque une position de fonctionnaire neutre qui refuse précisément que ces poudres soient utilisées aussi bien pour les insurgés, les canuts, que pour servir aussi à la répression incarnée à l'époque par Louis-Philippe. Après ce fait-là, en 1831, Louis-Philippe cherche à l'élever au rang de chevalier de la Légion d'honneur pour son acte héroïque, le fait qu'il ait déversé les contenus de poudre dans la Saône et dans le Rhône, et il refuse, considérant comme indigne le fait d'être élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur dans le cadre d'une révolte sociale. Donc il va avoir un moment de vive popularité dans la ville de Lyon, aussi bien auprès des insurgés qu'auprès des camps un peu plus conservateurs. Il va avoir une carrière politique ici à Fleury-sur-Saône, où il est conseiller municipal, puis il entrera au conseil municipal de Lyon, dans la municipalité du docteur Terme. Il va avoir une carrière politique de conseiller municipal entre 1843 et 1848, et il va s'illustrer notamment au sein de la section des jardins, des plantes et de l'approvisionnement en eau. Il va remettre un rapport sur l'approvisionnement en eau potable de la ville de Lyon, préconisant l'usage des eaux du Rhône pour alimenter la population en eau potable. En 1848, ce qui se produit, c'est qu'il y a une révolution parisienne qui éclate en février et qui a des conséquences ici à Lyon, où l'on passe d'une municipalité orléaniste à une municipalité républicaine. Lui-même était proche des milieux politiques orléanistes. Il est écarté comme beaucoup de conseillers municipaux de l'époque et il retrouvera ensuite un rôle politique sous le Second Empire. Il a fait prospérer son entreprise à partir du bleu outremer artificiel qui est composé de différentes matières premières, la soude et le kaolin. La soude et le kaolin, ce sont les matières premières principales du bleu outremer artificiel, ou bleu guimet, qui sont déposés dans des pots ou des creusets, lesquels sont portés à très haute température. Donc il faut des quantités assez importantes de charbon pour procéder à la crémation de ces matières premières. Puis, lorsque ces matières premières, kaolin et soude, sont portées à très haute température, des couleurs apparaissent et il faut avoir un tour de main pour interrompre la température et pour ramener la température très élevée à une température ambiante. Et ainsi, différents types de bleus peuvent être produits. Le bleu d'outremer artificiel est destiné en priorité aux peintres, mais il produit aussi d'autres bleus pour les papetiers et il compte parmi ses clients les papeteries Canson qui se trouvent à Annonay. Le
C'est
papier Canson
Canson et Montgolfier, il
et
faut dire.
Montgolfier.
Et Montgolfier, les Montgolfiers sont très connus, et c'est effectivement là. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que à partir de 1831, lorsqu'il construit cette usine de Fleurieux, bien sûr, il améliore sa production et sa productivité de cette entreprise, ce qui fait que au fil du temps, il peut vendre et conquérir des marchés plus importants au fur et à mesure de ses inventions. Et on commence par vendre aux papetiers, on met le pigment de bleu d'outremer dans la pâte à papier, moyennant quoi ça rend le papier plus blanc, puisque ça azure en quelque sorte l'ensemble de la pâte. La pâte normale sort normalement jaune, c'est la raison pour laquelle un grand nombre de livres, le plus grand nombre des livres sont jaunes historiquement, mais grâce à cette invention et grâce à cette transformation, il y remplace le cobalt, je crois
Le bleu de
savoir,
cobalt,
le
oui.
bleu de cobalt, et bien grâce à cela, le papier devient blanc. Le papier devient blanc, ce qui est blanc est propre, ce qui est blanc est luxueux, et donc ça se vend plus facilement. Et c'est la raison pour laquelle il va augmenter ses ventes auprès de ses papetiers, et au fil du temps, à partir de ces améliorations de productivité, en 1840, il va accéder au marché du blanchissement du linge, et qui devient à ce moment-là de plus en plus important. Et par exemple, à Lyon, il y a des blanchisseurs qui sont connus. Dans la périphérie de Lyon, il y a quelquefois des gens, 800 blanchisseries. Et c'est à ce moment-là qu'il va encore développer un peu plus ses ventes. Ses ventes, avec ces petits sachets-là, viennent après, vers les époques de 1850, directement dans les foyers familiaux.
Il va ainsi faire du bleu guillemets, un bleu de consommation populaire, très présent dans le quotidien des Françaises et des Français, sous la forme de l'azurage du linge, pour rendre le linge plus blanc que blanc, mais aussi dans la production de l'encre. L'encre des écoliers, qui est faite à base de bleu guillemets, et qui intègre le quotidien des familles françaises, faisant de ce bleu un produit très populaire, qui va ensuite être appuyé par une réclame qui va mettre en scène l'usage du bleu guillemets dans les gestes quotidiens de la vie, chez les blanchisseuses, chez les lavandières, chez les écoliers, chez les papetiers. Donc tout un ensemble de personnes, de professionnels, mais aussi de particuliers, qui vont faire de ce bleu un usage quotidien. Il se trouve que le bleu guillemets occupe une position monopolistique. L'entreprise contrôle entre 50 et 60% du marché français entre 1831 et 1871. C'est une entreprise qui va devoir faire face à une concurrence franco-française, notamment le bleu des champs, qui est produit en Lorraine et qui va avoir cette spécificité, le bleu des champs, de conquérir aussi le marché des papetiers. Car il y avait un léger défaut dans le bleu guillemets d'origine, c'est qu'au contact de l'alun, qui est une matière chimique contenue dans la pâte à papier, le bleu guillemets avait parfois tendance à déteindre, ou en tout cas à devenir beaucoup plus clair. Les Deschamps ont réussi à mettre au point un bleu capable de résister à l'alun, c'est-à-dire à cette matière chimique que les papetiers utilisaient. Ce qui fait que la position de l'entreprise va un petit peu s'amoindrir dans les années 1870 au contact de l'entreprise Deschamps, qui était le principal concurrent de la famille Guimet en France. Sur les marchés internationaux, le bleu guillemets remporte un certain succès. Dans les années 1830-1840, il est très demandé en Angleterre, en Autriche, en Allemagne et en Belgique. Mais il se trouve que nous sommes dans un contexte économique qui est celui du protectionnisme. Le bleu guillemets est frappé de droits de douane très importants dans les années 1830-1840, ce qui va conduire Jean-Baptiste Guimet à défendre des thèses libre-échangistes ici à Lyon, et il épouse ainsi les préoccupations qui sont celles du patronat soyeux de l'époque, qui est très attaché à la défense du libre-échange. Jean-Baptiste Guimet va être l'un des actionnaires du Courrier de Lyon, qui est un journal local qu'il fonde avec Arlès Dufour, grand patron soyeux, pour défendre les idées de libre-commerce et de libre-échange, car ces produits sont très demandés en Autriche, en Allemagne et en Angleterre, mais ils sont frappés par des droits de douane très importants, ce qui va conduire à une politique commerciale qui va être orientée vers les grands marchés d'Afrique du Nord. En 1830, la France s'installe en Algérie, en 1880, elle s'installe en Tunisie, et voyant que les marchés d'Europe du Nord sont verrouillés par des droits de douane, Jean-Baptiste Guimet va orienter la politique commerciale de son entreprise vers le marché colonial.
Il n'y a pas que les droits de douane qui vont effectivement permettre une orientation sur le sud de l'Europe et sur les nouvelles colonies. Il y a tout le grand mouvement colonial français et qui faisait que effectivement, c'est des marchés qui s'ouvraient et qui s'ouvraient relativement facilement pour les entreprises françaises, alors que la concurrence était très forte en Allemagne,
Oui.
parce que l'Allemagne était déjà à ces époques-là, on va dire même 1850, extrêmement industrieuse, et surtout dans ces domaines de la chimie. On a eu des entreprises comme Leverkusen, qui étaient les concurrents principaux en Allemagne, entre autres, de l'entreprise du Bleu Guillemet, qui restait quand même la plus grande entreprise européenne, le marché le plus important. Le marché le plus important, non, il était en Allemagne. Mais par contre, comme en fait les producteurs allemands étaient très nombreux, le Bleu Guillemet restait la plus grande entreprise malgré toute cette concurrence forte. Cette concurrence forte, donc, a bien poussé Jean-Baptiste Guillemet à développer ses marchés, effectivement, et ses ventes dans le sud et dans les nouvelles colonies. En cela, on peut dire que c'est une entreprise qui a suivi complètement le mouvement de colonisation qui était très forte au 19e siècle. Alors, donc, l'invention en fait de Jean-Baptiste Guimet part du bleu d'outre-mer artificiel part de cinq matières premières principales. Il y a le sulfate de soude, le carbonate de soude, le kaolin, qui a beaucoup d'importance, le soufre lui-même et le charbon de bois, qui est comme une résine, si vous voulez. Et toutes ces matières premières, en quelque sorte, sont broyées, mélangées et incluses dans des pots. Ces pots de terre cuite, en quelque sorte, sont mis dans des fours qui sont énormes, et qui sont chauffés jusqu'à 800 degrés. Et là apparaît un tour de main qui est fondamental par les contremaîtres de l'usine de Fleurieu. Il ne faut pas ouvrir trop tôt le four ni trop tard, parce qu'il y a une oxygénation qui doit se faire, et il faut laisser à peu près 8 jours à la cuisson. Et petit à petit, on réduit la chaleur à l'intérieur de ce four jusqu'à 0 degré, mais il faudra 3 semaines pour cela. Donc vous vous rendez compte que c'est une production qui est compliquée et qui est lente et qui demande un tour de main très très particulier. Et pour la petite histoire, quelquefois on allait réveiller la personne en question parce que le four était en train de cuire trop fort. Voilà ce que je voulais vous dire sur la fabrication de ce bleu.
Cette fabrication s'est faite
à partir de 1826, vu que cette invention a été accomplie le 10 août 1826. En 1831, Jean-Baptiste Guimet crée ici à Fleury-sur-Saône une usine pour exploiter de façon industrielle son invention. Et en 1834, il démissionne de l'administration des poudres et salpêtres pour se consacrer intégralement à ses activités économiques d'industriel, mais aussi à ses activités politiques. Car parallèlement à la direction de l'entreprise, il se consacre à la vie locale, d'abord à Fleurieu en tant que conseiller municipal, puis à Lyon en tant que conseiller municipal de la ville sous la monarchie de Juillet. Il va orienter la politique commerciale de l'entreprise vers les marchés d'Afrique du Nord. Il va être extrêmement sensible à la problématique des transports. C'est sous le Second Empire que la ligne de chemin de fer, le PLM, le Paris-Lyon-Méditerranée, est achevée. Cette ligne de chemin de fer unit Paris, construction de la gare de Lyon, la gare de Perrache, qui est construite pour l'occasion à Lyon, et la gare Saint-Charles à Marseille. Il se trouve que le premier président du PLM est un polytechnicien, Paulin Talabot, que Jean-Baptiste Guimet connaît très bien. Il va être l'un des actionnaires du Paris-Lyon-Méditerranée, car il voit dans cette infrastructure moderne une façon de transporter son bleu jusqu'à Marseille. Et c'est à travers la compagnie de navigation mixte que Jean-Baptiste Guimet va pouvoir commencer l'exportation des produits de l'entreprise vers les marchés méditerranéens, notamment vers l'Algérie. Il s'associe pour cela à la famille Pastré, qui est l'une des plus importantes familles marseillaises du Second Empire, qui a fondé notamment la Société marseillaise de crédit. Et Jean-Baptiste Guimet est tantôt président de la compagnie de navigation mixte, tantôt administrateur en lien avec les milieux d'affaires marseillais. Pourquoi parle-t-on de compagnie de navigation mixte? Parce que c'est une navigation qui alterne tantôt la force éolienne, tantôt la force motrice, c'est-à-dire la machine à vapeur. Il se trouve que les incendies sont souvent nombreux sur ces navires et pour prévenir le risque d'incendie à bord, les marins changent le mode de navigation, c'est-à-dire qu'ils ouvrent les voiles quand ils sentent qu'ils n'ont plus le contrôle de la machine à vapeur qui permet au navire d'avancer. Ils orientent ainsi la politique de l'entreprise vers les marchés d'Afrique du Nord, alors qu'à ce moment même, en Europe, les industriels allemands mettent au point des bleus d'outre-mer de qualité, parfois de qualité un peu supérieure à ceux des bleus Guimet. Pourquoi? Parce que le milieu géologique allemand est servi par des kaolins de qualité. Les kaolins du Palatinat sont des kaolins de très grande qualité, alors que les kaolins dont se fournit l'entreprise Guimet sont des kaolins de l'Allier et qui sont de qualité un peu moindre. Ce qui fait que le rendu est souvent un peu meilleur s'agissant des bleus allemands par rapport aux bleus Guimet, aux bleus français. Il se trouve aussi que l'entreprise Guimet a orienté sa politique commerciale vers les marchés d'Afrique du Nord dans les années 1850-1860, alors que les Allemands, eux, sont servis par un marché qui est très consistant, très nombreux, et aussi les Allemands ont orienté leur politique vers la conquête du marché russe et la conquête du marché britannique, des marchés sur lesquels l'entreprise est insuffisamment présente par rapport à ses concurrents allemands, mais elle maintient de très solides positions sur le marché français, vu qu'elle est le leader incontesté entre 1831 et 1871.
En fait, ce qui est très important, c'est aussi de voir que dès 1834, Jean-Baptiste Guimet, avec son bleu d'outre-mer, remporte tous les premiers prix des expositions et industrielles, puis ensuite des expositions universelles à Londres, dans le Crystal Palace en 1851, puis ensuite en 1855 à l'Exposition universelle de Paris, qui mine de rien quand même, attirait déjà à ces époques-là 6 millions de personnes, c'est pas rien. Et donc il était, et quelquefois même, il était tellement bon, son bleu était tellement de bonne qualité, qu'il ne participait pas, parce qu'il était membre du jury des autres. Et il y avait un grand nombre d'Allemands, puisque 80 entreprises allemandes produisaient du bleu d'outre-mer. Et ce qui fait que en France, eh bien, l'entreprise Guimet, où il y avait 7 ou 8 entreprises, pas plus, était véritablement le leader mondial, puisque le marché était très atomisé, spécialement en Allemagne.
Et le marché allemand était un marché très atomisé, avec beaucoup de producteurs, une concurrence qui finalement poussait les industriels allemands à se dépasser les uns les autres, à aller sur les marchés extérieurs, en Angleterre et en Russie. Ce qu'il faut aussi noter dans le cadre de la chimie allemande, c'était que c'était une industrie très fortement soutenu par la banque. On a pu voir dans les archives familiales que les Allemands parfois vendaient à perte précisément pour s'installer sur un marché et qu'ils étaient soutenus en cela par leur système bancaire, alors que le système bancaire lyonnais était plutôt réticent à ce que l'entreprise de Guimet puisse écouler à perte certains de ses produits pour remporter certains marchés. Il y a aussi la question de la recherche fondamentale, c'est-à-dire que lorsque l'on analyse la production scientifique qui est faite autour du bleu d'outre-mer et aussi la fixation de ce pigment sur des supports divers, et notamment les supports métalliques, on se rend compte que la recherche fondamentale allemande est un peu plus dynamique que la recherche fondamentale française. Si l'on fait le comparatif des publications scientifiques, entre 1850 et 1914, il y a 20 à 30% d'articles scientifiques allemands supplémentaires par rapport à la production scientifique française. Et cela, Jean-Baptiste Guimet, Émile Guimet et les ingénieurs centraliens qui l'ont aidé à développer l'entreprise en sont parfaitement conscients. Ils sont conscients de la concurrence, ils sont conscients de l'importance que prend la chimie allemande avant la Première Guerre mondiale, et ils optent pour un repli stratégique sur le marché colonial, tout en ne perdant pas à l'esprit l'idée que les relais de croissance sont souvent beaucoup plus forts en Europe, où ils sont présents, mais de façon moindre du fait que la chimie allemande est très fortement soutenue par la banque.
J'ai trouvé dans les archives, effectivement, quelque chose de tout à fait intéressant concernant l'évolution de l'outre-mer artificiel et de ses prix à l'époque de Jean-Baptiste Guimet. Le prix de l'outre-mer naturel à l'origine était de 5 000 francs le kilo de bleu. Et en 1876, le prix moyen de l'outre-mer artificiel devient 2 francs le kilo. Vous voyez la différence qu'il y a. Et ce qu'il y est écrit là en dessous, ainsi, cette belle et précieuse couleur qui prend de si grands rendent si grands services aux beaux-arts et à l'industrie est devenue 2 000 fois moins chère et sa consommation est 5 millions de fois plus considérable. Ce document permet de voir en fait le développement et au fond l'évolution phénoménale de cette entreprise du bleu Guimet et de cette découverte de Jean-Baptiste Guimet.
On est passé d'une consommation qui était limitée à celle des peintres, puis avec l'effondrement du prix de vente, les papetiers et ensuite les blanchisseurs. Donc cet effondrement a été rendu possible grâce aux gains considérables de productivité. L'entreprise Guimet augmente considérablement sa productivité, ce qui permet d'impacter cette productivité-là sur le prix de vente et aussi dans la recherche de matières premières qui se font à prix bas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a permis à un jeune ingénieur centralien qui s'appelait Henri Merle de lancer une entreprise de soude en Camargue qui va ensuite devenir, par des évolutions successives, non plus un fournisseur en soude, mais le premier fabricant européen et mondial d'aluminium.
Je vais donc continuer à vous montrer quelques documents publicitaires. À l'époque, on dit ça plutôt des réclames. Ici, vous avez Jean-Baptiste Guimet, inventeur de l'outre-mer artificiel en 1826. On souligne toujours 1826, n'est-ce pas? Parce que, effectivement, il a été précurseur dans ce domaine. Et puis ici, vous avez quelque chose qui est peut-être plus difficile à voir, mais en fait, c'est Jean-Baptiste Guimet avec une publicité pour l'Asie et pour le Japon. Ici, vous avez une publicité pour l'Angleterre, The Guimet's Blue, vous voyez, ici. Et puis, vous avez aussi une autre réclame, on va dire. Il y a énormément d'affiches comme cela, qui sont des affiches très très jolies, de bleu guillemets, où vous voyez le côté artistique de la présentation. Il y a bien sûr d'autres choses, d'autres publicités à mettre sur les boîtes de destination, et chaque boîte de destination. Par exemple, pour les droguistes, eh bien, il y a une étiquette par droguiste. Le nom du droguiste figure sur l'étiquette qui est collée sur la boîte qui lui est expédiée. Et puis là, vous avez une étiquette aussi concernant effectivement Émile Guimet, qui est le fils et continuateur de l'entreprise de Jean-Baptiste Guimet, Émile Guimet Lyon. Vous avez un Place de la Miséricorde. C'est la place Toby-Rebatel, c'est effectivement un des sièges fondamentaux de l'entreprise du Bleu Guimet. Et en dessous, on met usine à Fleurieu-sur-Saône. En fait, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que Jean-Baptiste Guimet est sans arrêt en train de rechercher l'amélioration de la qualité de ses produits. Et cette l'amélioration de la qualité des produits commence par l'amélioration de ses matières premières. Et dans ces matières premières, il y a entre autres la soude. Et à ce moment-là, arrive Henri Merle, un jeune ingénieur qui cherche à monter une entreprise de soude, pourquoi pas à Salindres dans le sud de la France, et qui côtoie Jean-Baptiste Guimet, très connu à Lyon en 1855. Il est un élu politique important et d'autre part, il a fait fortune. Donc, il vient le voir en lui faisant une proposition de construction à Salindres d'une entreprise qui produira la soude, justement, et toute une partie de ses produits de matières premières pour l'entreprise de Fleurieu. Jean-Baptiste Guimet le finance, fait un tour, j'allais dire, pour trouver d'autres financeurs que lui, et il est président de cette société, pour faire court, qui s'appellera Produits chimiques d'Alès et Camargue, PCAC. Cette société accueillera en 1855 et 1860 plutôt les découvertes de Henri Sainte-Claire de Ville, qui ne sont autres que les premiers pas de l'aluminium en France. Et le début de l'aluminium français a été en fait financé par Jean-Baptiste Guimet, ici. Et ça s'appellera PCAC pendant 80 ans à peu près. Et pendant 80 ans, PCAC deviendra leader européen de la production d'aluminium. Ça se transformera plus tard, ça changera le nom qui deviendra Pechiney. Mais donc c'est important quand même de dire que en fait la bonne vision de Jean-Baptiste Guimet sur des perspectives industrielles et sa recherche sans arrêt de l'amélioration de sa production.
Oui, c'est vrai qu'il prend un rôle ensuite de banquier et d'investisseur à un moment où le crédit bancaire en France est très peu structuré. Comme l'a très bien dit Hubert, c'est lui qui finance les activités de Henri Merle pour lui fournir de la soude à bon marché. On est à une époque où les grandes banques de dépôt n'ont pas encore pris racine en France. Le Crédit Lyonnais apparaît en 1863, la Société Générale en 1864. Et lorsque des ingénieurs ont des projets, eh bien ils se tournent vers des industriels déjà établis, ayant fait leurs preuves. Et en ce sens, Jean-Baptiste Guimet a été un investisseur qui a remplacé d'une certaine façon les établissements bancaires français qui étaient inexistants ou peu présents en France dans les années 1850. Il a pris le pari de Henri Merle, dont il a soutenu les projets. C'est lui-même, comme l'a très bien dit Hubert, qui a permis le développement de toute l'industrie de l'aluminium, tant et si bien que lorsque Jean-Baptiste Guimet décède en 1871, les actifs qu'il détient dans PCAC, dans l'industrie de l'aluminium, ont dépassé les actifs qui sont ceux de l'outre-mer artificielle. Donc il a vu que cette mutation technologique à l'œuvre allait d'une certaine façon effacer, au moins partiellement, l'industrie du bleu, vu que les perspectives offertes par l'aluminium ont été considérables. Est beaucoup plus importante, vu que dans la fortune du fondateur de l'entreprise Guimet, les actifs de l'aluminium ont dépassé ceux de l'outre-mer.
Après le décès de Jean-Baptiste Guimet en 1871, il a un fils, Émile Guimet, qui reprend la société et qui, sans être véritablement polytechnicien comme lui-même, est suffisamment intelligent pour continuer l'entreprise, jusque à sa mort, en quelque sorte, en 1918. Son fils, Jean Guimet, reprend l'activité en 1900 et essaye effectivement de redéployer l'activité sur le plan international en construisant des usines, on va dire en délocalisant, construisant des usines au plus près de la consommation, on va dire en Hollande, en Belgique, entre autres, et même en Russie, à Saint-Pétersbourg. Il décède d'une façon accidentelle en 1920. Mon père, à ce moment-là, n'a que 12 ans et l'entreprise continue son activité, mais véritablement sans avoir de recherche et développement suffisante pour lui permettre de lutter dans ces domaines. D'autant plus que, à partir du milieu du XXe siècle, on a la décolonisation, donc les marchés habituels s'effondrent petit à petit, d'une part, et on a une recherche qui fait qu'il apparaît de nouveaux produits textiles qui n'ont pas besoin, effectivement, d'être azurés comme le linge historique. Et donc ces compétitions-là ont fait que l'entreprise, petit à petit, a décliné, et mon père a vendu cette entreprise à une société qui s'appelle Reckitt & Colman en 1963 exactement. Et le bleu actuellement continue et se produit toujours sur une entreprise qui est près de Lille, à Comines, mais c'est une entreprise américaine.
On a été très synthétique, on a parlé de son rôle politique en 1831, le fait qu'il était conseiller municipal du préfet Vaïs, qui a été le préfet du Rhône qui a considérablement modernisé la ville de Lyon, vu qu'il présidait le conseil municipal de 1853 à 1864. Et dans ce conseil municipal, Jean-Baptiste Guimet tient un rôle éminent. Il est proche également dans ce conseil municipal de Arlès Dufour, qui est un grand patron soyeux qui a fondé le Crédit Lyonnais en 1863 et qui a été à l'origine, Arlès Dufour, du traité de libre-échange avec l'Angleterre en 1860, mouvement en faveur de la fin des droits de douane que Jean-Baptiste Guimet a toujours appuyé dans le cadre d'un périodique qu'il a financé qui s'appelait Le Courrier de Lyon.
Alors, nous sommes en face du premier moulin de fabrication du bleu d'outre-mer par Jean-Baptiste Guimet lorsqu'il a fait ses premières inventions en 1826. Je vais essayer de le tourner, mais maintenant c'est un petit peu, ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné. Voilà. Et c'est à l'intérieur de ce creuset-là qu'on mettait les cinq matières premières nécessaires pour fabriquer ce bleu. Dedans, comme vous le savez, il y a de la soude, du chlorate de soude, il y a du kaolin, il y a le charbon de bois. En fait, il y a cinq matières premières qui sont là. Et ensuite de cela, ces matières premières sont mises dans des pots. Et là, on est plus avec ces pots qui sont ici. Dans une fabrication industrielle, vous l'avez compris, lorsqu'il s'installe à Fleury-sur-Saône, ce sont ces pots-là qui vont dans les fours énormes, il y a peut-être plus de 1000 ou 2000 pots comme cela, qui sont chauffés. Chauffés pendant environ 8 jours à 800 degrés, et c'est cette matière première qui, une fois chauffée, va brûler. Et le tour de main, en fait, du pilote du four est fondamental, puisqu'il va, lorsqu'il verra une petite flammèche comme cela bleue, c'est à ce moment-là qu'il faudra qu'il ouvre le four pour, on va dire, oxygéner, faire permettre à l'oxygène de rentrer dans le four et de donner la couleur bleue à cette matière première qui sera ici. S'il le fait trop tôt, ce sera brun. S'il le fait trop tard, ce sera vert. Ces gens-là étaient très, très précieux. On allait même les réveiller la nuit pour faire l'ouverture des fours. Vous voyez comme cette opération était plus délicate que le purement et simplement mélange et cuisson de cette matière première.
Alors, le petit déclic, on peut dire à la fin de cet entretien, sur le bleu Guimet, c'est que moi-même, quand j'ai découvert la couleur du bleu qu'on appelle maintenant bleu Klein, j'ai complètement reconnu le bleu Guimet. Et on nous a expliqué que finalement, Yves Klein, grâce à un liant, a breveté son bleu, mais qu'il se sert de la poudre du bleu Guimet qui est encore fabriquée maintenant. Voilà.